Nous revenons au chapitre 6, versets 9 à 11. Si vous vous en souvenez bien, le cinquième sceau est ouvert et Jean voit sous l'autel des âmes de personnes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu et naturellement du témoignage qu'ils avaient rendu. Alors, il criait d'une voix forte, « Maître, saint et véritable, jusqu'à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Ce sceau est donc ouvert avant que le nombre des martyrs soit complet, c'est-à-dire avant même la dernière semaine d'année des temps de la fin. Le temps de l'Église n'est pas encore terminé. C'est au cours du temps de l'Église que cela a lieu dans le ciel. Jean entend la requête des âmes, des persécutés qui demandent vengeance selon la parole de Dieu. Cela peut nous surprendre que des âmes qui sont parvenues à la perfection, car elles ne seraient pas là si l'en était autrement, elles sont donc parvenues, ce sont des esprits, des justes parvenus à la perfection. Pourquoi elles manifestent en quelque sorte ce désir de vengeance? Cela peut nous étonner, nous qui sommes tellement à cheval sur la morale, en général, n'est-ce pas, il n'y a rien de tel que les hommes pécheurs de la terre pour être vraiment à cheval sur les principes de la morale. Eh bien, ce n'est pas dans un sentiment de haine que ces âmes demandent vengeance. Mais c'est afin que les jugements de Dieu s'exercent et que, par conséquent, comme nous l'avons déjà dit, le règne de la justice puisse s'établir. Ces âmes sont dans l'état où elles sont conscientes aussi, elles aussi, du fait que si il n'y a pas jugement, si par conséquent la vengeance de Dieu ne s'est pas exercée, Dieu qui a dit « à moi la vengeance », eh bien si la vengeance, les choses ne sont pas rétablies selon la justice, et par conséquent le grand ordre ne peut pas s'instaurer. Et c'est ça qui les fait parler et les fait adresser à Dieu cette demande. Alors on leur donne une robe blanche et on leur demande de patienter jusqu'à ce que le temps soit venu où Dieu pourra alors là vraiment mettre en avant tous ses jugements, les jugements d'une manière générale. Alors nous lisons maintenant de 12 à 17, que nous n'avons pas lu tout à l'heure. Verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Ce sont là les grands bouleversements qui ont déjà été prophétisés par les prophètes d'Israël. Je peux, par exemple, vous lire dans Ésaïe, chapitre 34, et au verset 1er, « Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage, leurs morts sont jugées, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. » Et puis, nous avons aussi d'autres prophéties, par exemple, Joël, chapitre 2, verset 30, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je crois que nous sommes parmi les réchappés que l'Éternel a appelés. Et lui qui nous a donné la capacité de répondre à son appel. Oh, chers amis, comme c'est triste de ne pas répondre à l'appel de Dieu, de ne pas le faire. Le Seigneur Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Pourquoi ? Parce que les hommes ne répondent pas. C'est une chose terrible. Et quand nous prenons connaissance de ces prophéties sur les tout derniers événements, ce qui va se passer juste avant ce jour, l'éternel jour grand et terrible, eh bien, nous devrions être remués. Il faudrait que nous soyons tous remués. Ces choses vont s'accomplir exactement, très exactement. Est-ce que il n'y a pas eu accomplissement dans ce que Ésaïe, par exemple, a prophétisé, touchant la venue, la première venue du Seigneur Jésus? Il y a eu accomplissement. La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix, Conseiller. Tout cela s'est produit tel que. Et les choses annoncées pour bientôt, pour les temps de la fin, vont s'accomplir exactement. Chers amis, il ne faut pas que nous, chrétiens, nous soyons là. Il faut vraiment que nous ayons pris le premier train pour partir. Et ce premier train, c'est l'enlèvement. La terre, le séjour sur la terre sera quelque chose d'épouvantable. Absolument épouvantable. Et il faudrait qu'on trouve le moyen vraiment d'alerter nos compatriotes, nos concitoyens, nos semblables. Il faudrait qu'on puisse les faire trembler, qu'est-ce que vous voulez. Moi, je demande ça à Dieu, permet que nous ayons une parole telle qu'on les fasse trembler. Parce qu'ils sont là, n'est-ce pas, indifférents. Et alors, ils ne croient pas pour eux, tout ça. Ça n'a pas l'importance. Ils ne le lisent même pas. Ils ne le lisent pas. C'est quelque chose de terrible. Tout cela va s'accomplir littéralement. Alors, c'est ce que nous dit la fin de ce chapitre 6. Il nous rappelle ces grands événements hautement prophétisés, vous voyez, par les prophètes d'autrefois. et c'est le grand jour de la colère de Dieu. Pourquoi la colère de Dieu? Parce qu'il y a eu patience. Dieu est amour, Dieu est trois fois saint, Dieu a été en somme atteint dans ses œuvres, qui sont parfaites, magnifiques, nous dit l'Écriture. Il a été atteint dans ses œuvres par la révolte de l'homme, la rébellion des hommes, et par toutes les conséquences qui en sont résultées. Et alors, il a patienté parce qu'il a voulu sauver. Il s'est manifesté comme le Dieu amour. Il a mis en avant son amour et non pas sa justice. Mais ça ne peut pas toujours durer. Ou alors Dieu accepterait le désordre et l'anéantissement, ce qui est impensable. Donc, la patience de Dieu aura duré tout le temps qu'il fallait. Mais la colère est là, qui monte, la colère est l'envers de l'amour. Parce qu'il y a amour et patience, il y a colère. Et cette colère doit se manifester, sans quoi, il faut bien le préciser, le appuyer là-dessus, le temps de la justice parfaite, le temps du grand ordre, le temps de l'éternité ne pourrait jamais se présenter. Or, Dieu va vers cela, et il nous conduit, nous, vers ce temps-là. Que son nom soit béni. 7. Nous allons lire les 8 premiers versets. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Nous apprenons ici qu'un ange qui monte ou qui apparaît du côté de l'Est, c'est-à-dire du côté où naît la lumière, vient accomplir une importante mission de mise à part de 144 000 Israélites, qui est une phalange, constitue une phalange de serviteurs de Dieu. Ils sont appelés serviteurs de Dieu. D'abord, il faut que cet ange ordonne impérativement aux 4 anges des 4 points cardinaux de la terre de suspendre pendant quelque temps les exécutions dont ils sont chargés. Et c'est pendant cette interruption que un sceau sera apposé sur le front de ceux qui sont appelés les serviteurs de Dieu. 12 000 de chaque tribu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous est alerté dans cette lecture-là? Quand on lit, il faut quelquefois pouvoir relever des anomalies. Il y a des anomalies nécessaires, des anomalies qui sont révélatrices de quelque chose. Il y a une anomalie dans cela. L'anomalie, c'est que la tribu de Dan ne figure pas. La tribu de Dan, pourtant c'est une des 12 tribus. La tribu de Dan est absolument absente. Et par contre, l'on trouve Manassé, et qui est le fils de Joseph. Joseph, lui, c'est bien un des princes des 12 tribus, mais Manassé, non. Manassé, c'est son fils. Donc, c'est un petit-fils de Jacob, d'Israël. C'est pas un fils. Alors, lui, Manassé, remplace Dan. Dan est absent, il faut revenir au chiffre de 12. Il faut les 12 tribus, et alors c'est Manassé qui prend cette place. Mais pourquoi Dan est-il absent? Vous voyez, c'est une chose qu'on ne remarque pas généralement. Elle n'est même pas signalée dans les ouvrages. On passe là-dessus, n'est-ce pas, sans regarder. Il faut regarder les choses de très près avec la Bible. Eh bien, c'est que Dan s'est montré infidèle, ainsi que Moïse et Jacob l'avaient laissé prévoir prophétiquement. Si, en effet, nous nous reportons à la Genèse, au chapitre 49 de la Genèse, et verset 16, chapitre 49 et verset 16. Nous avons cette prophétie de Jacob, c'est-à-dire d'Israël, celui qui a été nommé Israël. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. C'est pas fameux comme prophétie, ça, hein? C'est pas fameux. Imaginez, par exemple, un père, hein, qui puisse avoir une vue en avant sur l'avenir de son fils et qui dise de pareilles choses. Un serpent, une vipère. Et puis alors, si nous faisons appel à la prophétie de Moïse, que nous allons trouver dans le Deutéronome chapitre 33 et verset 22, nous avons ceci. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. C'est tout ce qui est dit. Dan est un lion. Il est un lion, pas dans le même sens que le lion de la tribu de Juda, bien entendu. Hein. Il y a lion et lion. La figure n'est pas dans la même direction. Vous savez, on a souvent commis des erreurs dans l'enseignement de la Bible, notamment, on a prétendu que tout symbole devait toujours correspondre, donner une indication du même sens. Si, par exemple, la portée d'un symbole est péjorative, eh bien, il faut qu'elle le soit tout le temps. Elle ne pourra jamais être autrement. Ce qui est faux, c'est une généralisation qui est fausse. Vous avez, par exemple, les chevaux d'Égypte, c'est très mauvais. Puis vous avez d'autres chevaux qui sont, au contraire, pris dans un bon sens. Vous avez le jaillissement, par exemple, d'une source qui, en général, représente l'esprit, la vie, une source jaillissante. Et puis vous avez, dans Jérémie, une source jaillissante, la source du péché, exactement l'opposé. Vous avez le levain. En général, le levain est pris dans un sens péjoratif, et vous avez aussi quelquefois un levain qui est pris dans l'autre sens. Donc, cette généralisation qui se trouve dans certains traités, je vous le signale, et qui fausse qui fausse la compréhension, l'interprétation de pas mal de passages bibliques, notamment le chapitre 13 de Matthieu, sur le royaume de Dieu. Eh bien, alors là, n'est-ce pas, c'est déplorable. Pourquoi ? Parce qu'on fait des généralisations. Généralisations qui ne se justifient pas. C'est-à-dire qu'on introduit, par le moyen d'une généralisation, on introduit la vue de l'homme, le raisonnement de l'homme. Voyez-vous, la rationalité qui prend la place de la foi. Au lieu de suivre le déroulement de la révélation, on lui impose quelque chose. On impose, on fait dire à la Bible ce qu'on veut. Comme c'est déplorable, ça. Alors, il faut faire attention à cela. Eh bien là, nous avons cet exemple que le lion est pris dans un mauvais sens. Dans est donc une, un serpent, une vipère, un lion. Voilà ce que dans est. Et c'est pourquoi Jean, qui a reçu l'énumération des tribus, n'a pas eu le nom de Dan à coucher dans la liste, et il a eu celui de Manassé à la place. Dans d'autres citations des 12 tribus, on retrouve Dan, mais ici, il est absolument absent dans une citation qui a trait à l'ensemble des serviteurs de Dieu dans le peuple d'Israël de la fin, ceux qui sont marqués, qui ont le front marqué d'un sceau. Il n'est pas là, il ne peut pas, lui, recevoir ce sceau. Que cela nous serve à nous d'exemple, et que la crainte salutaire de l'Éternel soit vraiment à la base de toute notre conduite, de nos pensées, de nos comportements, que notre nom ne soit pas effacé du livre de l'agneau, comme a été effacé le nom de Dan. Vous savez que c'est le Seigneur le dit dans les 7 lettres de l'Apocalypse, précisément, je n'effacerai pas celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Quelqu'un un jour me disait, mais jamais le nom ne peut être effacé. Mais non. Je dis alors, cette promesse de Jésus est une sorte de promesse de Gascon. Je n'effacerai pas son nom. Alors si Jésus ne n'efface aucun nom, c'était pas la peine de le dire. Qu'est-ce que vous faites de la parole de Jésus, hein, vous faites vraiment, vous lui faites un sort assez curieux, hein, une parole de Gascon, une parole qui ne signifie rien en somme, en définitive. Si Jésus dit « je n'effacerai pas son nom du livre de vie », c'est que le nom pourrait être effacé. Là, nous avons une preuve qu'un nom est effacé. Il ne s'agit pas de l'Église, mais il s'agit tout de même d'une tribu, c'est important, une tribu du peuple d'Israël, et cette tribu est absente. J'ai noté là une référence dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 9, le verset 4. Chapitre 9 et verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Eh bien, c'est un peu ce qui nous explique le sceau qui va être apposé sur le front de ces 144 000 Israélites. Ce sont des gens qui, en somme, soupirent et gémissent à cause des abominations. Et il faudrait que nous, aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, les temps de la fin, nous soupirions après les abominations, les dérèglements, les désobéissances, les égarements, les erreurs, mettons pour ne dire que cela, les erreurs d'orientation qui se commettent dans l'Église. Il y a pas mal de livres qui sortent actuellement et qui signalent ces choses. Et il faudrait que nous soyons de ceux qui soient attristés, désolés par cet état de choses. Il ne faut pas que nous soyons indifférents. L'indifférence est quelque chose de déplorable devant Dieu. C'est l'indifférence devant ces choses, en somme, atteste d'un mauvais état d'âme. Un état d'âme, les indifférents, les dilettantes. Dieu n'aime pas ces gens-là. Il n'aime pas du tout les indifférents et les dilettantes. Ils aiment Dieu aime les gens qui prennent parti. Et le parti de Dieu, naturellement. Le parti même contre nous. Nous prenons parti contre nous et nous donnons raison à Dieu. Qui sont ces serviteurs israélites? Nous pouvons peut-être connaître certains d'entre eux. Nous en connaissons qui portent une désignation. Par exemple, les Juifs messianiques. Les Juifs messianiques. Vous me direz, ils sont membres de l'Église, c'est vrai, mais ils ont quand même une mission bien déterminée. Les Juifs messianiques. À Paris, il y a une Église messianique. Il y en a ailleurs aussi, et il y en a plusieurs et conséquentes en Amérique. Les Juifs messianiques qui se donnent pour mission d'aller vers leurs frères et de leur apporter le message de l'Évangile. Mais il est certain que notre texte nous oblige à considérer et qu'il doit y en avoir qui descendent des 12 tribus. Les 12 tribus, 12 000 de chaque tribu, il doit y en avoir qui descendent des 12 tribus qui sont désignées ici. Et leur action ne peut être que de travailler à la conversion d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël se convertira. Ce peuple qui restera sur la terre se convertira. Nous aurons l'occasion de revenir à lui dans la suite de notre étude. Il va se convertir d'une manière, pour ainsi dire, collective, non pas que la conversion puisse être collective, mais il y aura une telle masse, et toute la masse se convertira. Bien sûr, les conversions sont individuelles, mais ces conversions individuelles se cumuleront, se feront ensemble, si bien que ça donnera l'impression d'une conversion collective du peuple d'Israël. Et Dieu est en train de la préparer. Et il la prépare notamment avec ces gens. 144 000. Alors beaucoup de commentateurs disent, mais 144 000, ça, il ne faut pas prendre ça à la lettre, c'est un nombre symbolique. Alors moi j'aime bien ces genres de choses, n'est-ce pas? On vous dit c'est symbolique. N'essayez pas de compter, de vous dire il y a 12 000, 12 000, 12 000, mais non, c'est symbolique. Seulement, les gens qui ont recours à ce type d'interprétation, ne vous disent jamais ce que le symbole signifie. Moi, j'attendrais qu'on dise c'est symbolique, bon, mais ça signifie quoi, s'il vous plaît? Dites-moi ce que ça signifie, et jamais on ne le dit, n'est-ce pas? Pour la bonne raison, c'est qu'on n'en sait rien. Alors, n'allons pas tomber dans ce panneau, hein, disons, on nous dit 12 000, nous prenons 12 000 comme un peu plus loin, on nous dira qu'il y a 1 000 ans de règne, eh bien nous prendrons 1 000 ans et non pas un nombre ayant une signification de symbole, une signification que personne ne peut déterminer. Donc ici, il y en a 12 000, c'est important, Dieu prépare la conversion d'Israël. Je sais bien qu'au tout dernier moment, comme Zacharie le dit dans son chapitre 12, Dieu enverra un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont percé, celui que les Israélites ont percé. C'est extraordinaire que Zacharie ait pu écrire cela des siècles avant la venue de Jésus, n'est-ce pas? Ils tourneront les yeux vers moi, celui qu'ils ont percé, par un esprit de grâce et de supplication que Dieu enverra. Ce sera, en somme, cet esprit, ce sera lui qui, en somme, accomplira d'un seul coup toutes ces conversions, mais elles auront été préparées. Elles auront été préparées d'avance, et je pense que ces 144 000 Israélites existent, ils existent, s'ils ne sont peut-être pas encore tout à fait 144 000, je ne sais, mais enfin, ils existent maintenant sûrement, ils existent sûrement. Et ils sont à l'œuvre, et ils vont se mettre de plus en plus à l'œuvre. Il faut se rappeler que Élie avait eu l'impression qu'il était tout seul. Il avait dit à Dieu, moi il n'y a personne, là, je suis tout seul, je suis resté tout seul, moi, comme prophète, tout seul. C'est tout de même une situation bizarre, celle-là. Et Dieu lui parle de 7000 hommes qu'il connaît, lui, qu'Élie ne connaît pas, et qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors, Dieu a une vue sur ce qui se passe parmi les hommes sur la terre que nous n'avons pas, nous. Dieu n'est pas obligé de nous tenir au courant absolument de tout. Et s'il ne le fait pas, c'est peut-être parce que nous sommes des bavards et que nous risquerions quelquefois de nous servir à tort de certaines informations que Dieu nous donnerait. Si Dieu nous disait, par exemple, les 144 000, eh bien, je vais vous les désigner, ils sont ici, ils sont là, ils sont dans telle et telle condition, etc., n'est-ce pas ? Nous serions capables de courir les voir, par curiosité, par exemple, n'est-ce pas ? Et puis, Dieu ne veut pas qu'on trouble l'œuvre qu'il est en train de faire. Il a une partie de son œuvre, Dieu a une partie de son œuvre qui est cachée, chers amis, qui est secrète, et bien sûr qui n'est pas étrangère à l'œuvre qui est ouverte, à l'œuvre de l'Évangile, l'œuvre à laquelle le Seigneur nous associe. Mais il y a une partie de l'œuvre que Dieu ne révèle pas. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous.